Oui, bonjour. Vous lancez des autoroutes APRR. Vous avez parlé tout à l'heure du désengagement des politiques publiques. J'ai juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous cherchez le soutien des politiques ou vous cherchez à l'éviter pour être efficace, je m'entends.
Je crois que la vraie question, on la poserait pas comme ça. Les politiques on-off de l'État, où soit il est là et il décide de tout, soit il n'est pas là, c'est pour nous des politiques du passé. Et on a besoin que chacun des parties prenantes sur un territoire prenne ses responsabilités. Notre idée, en plus, sur Start-up de territoire, c'est de penser qu'on a besoin de tous ces acteurs-là, mais on pense aussi que les organisations sont un peu mortifères ou qu'elles tuent les partenariats. Et très symboliquement, dans Start-up de territoire, à chaque fois que quelqu'un arrivait, il avait sa photo en noir et blanc, son nom, et elle était affichée. Et il n'y avait pas son grade. Donc on ne savait plus, au bout d'un moment, si on était directeur du travail, représentant de l'État, chômeur, cadre à la retraite, etc. Donc on a besoin de l'État, mais dans une formule revisitée de sa manière de travailler.
La question, c'était aussi sur la collectivité locale, je pense, non ?
Oui, les politiques en général et puis les collectivités aussi.
Oui, je pense que sur la puissance publique, j'intègre un peu les collectivités comme ça. Oui, ça fait, c'est l'ensemble, effectivement.
Dans le même ordre d'idée, justement, en matière d'évolution des politiques publiques, qu'est-ce que vous pensez du récent tournant pris par un certain nombre de politiques publiques via ce qu'on appelle des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt? Est-ce que c'est plus conforme à ce que vous souhaitez ou est-ce que c'est toujours dans le j'impose les moyens et les objectifs?
Peut-être que l'esprit dans lequel on travaille, ça correspondrait plus à des DSP, des délégations de services publics. Après, pour le coup, on ne travaille pas trop derrière la commande publique. Ça s'est passé 2-3 fois, mais sur des appels d'offres qu'on avait construits avec eux. Et aujourd'hui, l'apport le plus important de la puissance publique, en réalité, c'est du temps de travail de leur agent à travers le pôle territorial de coopération économique. C'est-à-dire qu'il y a du temps de travail, des services économiques, de l'agglomération, de la CCI, enfin, toutes les organisations aujourd'hui viennent, on a de la chance, viennent travailler dans notre organisation. Pour nous, c'est quelque chose d'important.
Question, oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui était passionnante. Moi, j'ai une question...
À chaque fois, vous connaissez maintenant. Moi, je ne vous connais pas tous encore, lui encore moins.
Je crois que monsieur n'aime pas trop les étiquettes.
Non, mais on peut se présenter sur les étiquettes.
J'assume la vie.
Il faut venir dans le Vercors. Hein.
Je voulais vous poser une question par rapport à l'exemple tchèque. J'aurais aimé vous entendre sur une approche comparée. Comment vous voyez l'histoire de le destin industriel de Romans-sur-Isère par rapport à Bataville, à l'entreprise Bata et au problème qu'il y a eu au début des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Enfin, je n'ai pas en tête si les problèmes ont peut-être été décalés dans le temps, mais est-ce que vous avez étudié d'autres situations européennes de l'industrie de la chaussure?
Non. Non, je ne pourrais pas vous répondre. On a l'impression que les districts italiens ont eu des modèles vraiment très proches. On l'a constaté parce que il y a une entreprise d'un district italien qui est en train de fermer. Et un des ouvriers est venu à Lyon. Et à Lyon, pour chercher du travail, on lui a dit « il faut que tu ailles à Made in Roman, à Roman ». Et cette personne, elle travaillait déjà, comme nous, on essayait de travailler. C'est-à-dire en sachant faire beaucoup plus de choses dans la chaussure et en travaillant avec d'autres ateliers. Après, en France, sur la partie du Scholté, les évolutions se sont faites différemment, mais peut-être que ça fait des cycles. Dans un premier temps, je pense qu'ils s'en sont mieux sortis sur la capacité de travailler ensemble, parce que pour eux, ils faisaient pas du luxe, ils faisaient de la chaussure de qualité, et du coup, il n'y avait pas les mêmes freins sur les égos, les secrets industriels, etc.
Et je suis pas capable. À propos de luxe, est-ce que vous travaillez avec les grandes marques du luxe français ou italien?
On a essayé un peu, et non, pas bien. Non, bah, c'est compliqué déjà, parce que il y a certaines choses qui sont quand même très compliquées à faire, sur lesquelles il y a une question de savoir-faire, puis on n'est pas bien dans la culture. Moi, j'y suis allé un peu, par exemple, et ils nous servent du champagne à 9h le matin, aux Champs-Élysées, là-bas. Après, ils viennent, on leur dit, bah, venez à 8h à l'atelier.
Parce qu'ils viennent se coucher, en fait.
Ouais, ils viennent à l'atelier, ils viennent à 10h, 10h30, et puis c'était tard, quoi, nous, on les attendait, et puis à 18h, ils ne comprenaient pas pourquoi les ouvriers partaient, et puis à 22h, pourquoi on allait se coucher, quoi, enfin, tout ça. Non, on ne connaît pas bien. On a fait un peu des trucs comme ça. Notre truc, c'est plutôt de faire une chaussure résistante à la mode, qu'on peut porter dans le temps, que tout le monde peut porter. Vous savez, il y a une question de prix. La chaussure fait en Asie, elle vaut ce que les gens veulent bien la payer, parce que entre 20 et 70 euros. Une chaussure en France, si elle est fabriquée en France complètement, on dépasse tout le temps 100 euros. Le luxe, c'est plutôt 500, 600, 700. Nous, notre ambition, c'est de faire des belles chaussures, mais sans que la question de la marque, du créateur, prenne tout l'espace qu'il faut pour aux ouvriers pour la faire. Donc, c'est pas tellement notre culture. Moi, je trouve qu'il y a des choses superbes dans le luxe, mais on ne sait pas très bien faire.
Vous êtes quand même sur des niches, ça pose le problème de la distribution.
Oui. Oui, après, ben, pour la distribution, je vous ai dit qu'on se regroupait, tout ça. Ça veut dire que quand on a de la distribution physique, on a tendance à se vendre les uns les autres, à partir ensemble dans les salons. Et notre super enjeu, c'est la vente directement, sans passer par des intermédiaires. Et donc, on développe des choses avec le net, bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire un grand magasin d'usine. On ne peut pas, nous, avoir des intermédiaires autres que des commerçants qui acceptent des coefficients qui sont corrects.
Autre question ? Oui.
Merci. Yannick Vissous de l'agglomération de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est accueilli dans l'école de l'entrepreneuriat? Ce sont des créateurs ou des gens qui voudraient découvrir une autre trajectoire? C'est sur quelle durée?
Alors, on a un certain nombre d'outils ou de dispositifs ou de dynamiques autour de la question de la création d'entreprise. L'école de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est fait pour des gens qui ont un projet, qui veulent se lancer, mais à qui il manque quelque chose. Le principe de l'école de l'entrepreneuriat, c'est de penser que quand les gens vont à l'école, ils n'ont pas forcément toutes les questions à poser parce qu'ils n'en ont pas l'expérience, et une fois qu'ils ont démarré le boulot, ils n'ont plus le temps d'aller à l'école. Et donc nous, on essaye de travailler à ce moment-là. Et du coup, l'école de l'entrepreneuriat, c'est en réalité 5-6 mois de présence, mais une demi-journée par semaine. C'est-à-dire qu'ils sont là les jeudis matin, en principe, parfois les jeudis après-midi. Il y a plein de supports sur le net qui leur sont accessibles. Et du coup, ils ont les formations habituelles, la gestion, le marketing, le juridique, le RH, etc. Ils ont des choses sur le comportement du chef d'entreprise, gérer son temps, son stress, des choses comme ça. Mais de manière espacée, et encore une fois, plutôt avec des professionnels. Du coup, c'est intéressant parce que quand ils se lancent, les professionnels, sans le dire, deviennent un peu leurs parrains, en parlent autour d'eux. Pour nous, l'école de l'entrepreneuriat, c'est d'inscrire ces personnes, d'accompagner, d'aider ces personnes, mais de les inscrire dans des relations de coopération sur le territoire. Très, souvent, très vite, ils s'inscrivent après à nos associations de chefs d'entreprise, etc.
Vous travaillez avec l'éducation nationale, les lycées professionnels, tout ça ?
Il y a une plateforme. À Romans, ça s'était arrêté presque la chaussure, et là aujourd'hui, l'AFPA refait des formations. Ils avaient complètement arrêté. Et le GVETA, en lien avec le lycée professionnel, a réinvesti avec la région sur une plateforme pour le cuir et la chaussure. Donc on travaille un petit peu avec eux, mais c'est pas toujours facile, mais en tout cas, ils font partie de l'association, ils sont volontaires. Après, ils ne travaillent pas tout le temps dans le même espace-temps. Les chefs d'entreprise sont très bousculés. C'est des toutes petites boîtes. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais ils sont présents.
Sarah ? Oui, pardon, c'est une question très naïve.
Mais
pour, est-ce que vous identifiez des conditions pour que ça marche, pour, comme vous dites, pour pouvoir faire cette opération d'incuber le territoire, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des territoires qui s'y prêtent mieux que d'autres, au fond, est-ce qu'il y a des questions culturelles ou pas?
Voilà, la première chose que qui est dite, parce que cette question elle est assez souvent posée, parce que plein de gens qui nous disent « venez faire ça chez nous », etc. Il y en a qui disent qu'il faut que le territoire ait connu une certaine zone de souffrance ou de difficulté pour pouvoir rebondir.
C'est comme
un candidat à la présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il va rebondir, non. Je ne suis pas persuadé. Je pense que ça fait partie des conditions, mais c'est ni suffisant ni nécessaire. On travaille beaucoup. Alors maintenant, on a un tout petit réseau, mais on est 10-15 territoires comme ça. On est un peu amis, même quand on va les uns chez les autres, c'est rare qu'on se retrouve à l'hôtel. Et là, moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec Lille, mais aussi avec Figeac. Et la question de Figeac, les fermes de Figeac, c'est complètement différent. C'est un territoire qui est riche, en réalité, qui a su sauver son agriculture de manière très intelligente, qui a une vraie industrie de l'aéronautique, qui est complètement paumé, enfin, vous n'y allez jamais par hasard, quoi, il faut faire esprit d'y aller, et qui a un problème de désertification. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Non, je crois que le ressort essentiel, c'est de parler de cultures économiques différentes, d'arrêter de penser que l'entreprise, c'est juste des gens du CAC 40 et que la puissance publique va nous sauver. C'est l'idée de penser que quand il y a 6 millions de chômeurs, Daesh, des problèmes de pétrole, des problèmes de pollution, à Grenoble, on ne peut plus circuler. En Rhône-Alpes, il y a des vallées qui sont complètement polluées, pire qu'à Paris, enfin, etc. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments. Et que par rapport à ça, les systèmes politiques actuels ont failli, les entreprises toutes seules ne peuvent pas régler, et peut-être partager une culture qu'ensemble on peut relever des défis. Moi j'ai l'impression, tout le monde me dit « mais tu ne fais pas de politique ». Mais bien sûr que je fais de la politique, c'est pour ça que je ne suis pas dans les partis, pour faire de la politique. Je fais de la politique parce que je monte un fonds d'investissement, je travaille avec les chefs d'entreprise, on devient amis, on travaille ensemble. Et donc voilà, je pense sûrement qu'il faut une prise de conscience de l'impasse dans lequel on est aujourd'hui, mais qui sait qui pense que tout va bien, quoi, là, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut quand même être aveugle et sourd-muet pour penser que la situation va bien. Je pense qu'on est dans des impasses terribles. Et quand on a conscience de ça, on peut aussi prendre conscience qu'on peut transformer le monde en travaillant autrement, en plaçant son argent autrement, en créant des entreprises autrement. Et moi, je me suis aperçu que ça attirait des chefs d'entreprise de tout horizon, de toute expérience. Donc moi, je crois que pour que ça fonctionne dans un territoire, il faut une conscience, puis il faut peut-être un lieu, un marqueur, quelqu'un qui siffle la fin de la récré et qui dit « on peut faire autrement ». Et c'est peut-être plus ces conditions. Après, moi, je suis scotché par l'invention, le dynamisme que peuvent apporter chacun. Je crois que ça répond aussi à l'espèce d'impuissance qu'on a tous par rapport à la situation d'aujourd'hui. Si on crée des lieux concrets où on peut changer son quotidien, et ben, peut-être les gens s'en ouvrent dedans. Donc voilà, c'est difficile de répondre à votre question, mais plutôt le sentiment qu'à Romans, c'est peut-être à partir effectivement des difficultés qu'on a pris conscience, mais il a fallu aussi à un moment donné incarner quelque chose. La stratégie d'Archer, ça n'a pas été du tout de dire aux chefs d'entreprise « venez, on va faire autre chose ». Ça a été de faire, d'aller en parler dans les médias et d'accueillir les chefs d'entreprise qui nous disaient « mais nous aussi, on aimerait bien relocaliser, comment on peut faire ?» Donc c'est à partir d'exemples concrets, de montrer qu'il y a un autre possible. Et après, l'autre possible, on le construit ensemble.
Oui, Pierre-Marie Meignier, SNCF Réseau. Vous disiez tout à l'heure aussi, comme condition de la réussite, qu'il fallait bien connaître son territoire. De ce que j'entends, moi, c'est, j'ai l'impression qu'il y a aussi un savoir-faire qui est celui de l'usage, c'est-à-dire que
Vous travaillez avec des gens qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur métier. Et ça, ça m'interpelle, parce que moi, je travaille dans la concertation. Et faire reconnaître à mes techniciens, à mes ingénieurs, ce savoir-faire d'usage ou d'usager pour le coût du transport, c'est-à-dire effectivement des gens qui prennent le train tous les jours, ils ne savent pas comment on change le ballast, mais ils sont dans le train tous les jours. Ils ont peut-être des idées à nous apporter. Je me demande quel regard vous avez, vous, sur cette compétence et ce savoir-faire d'usage, justement.
Ben, je l'aurais pas dit comme ça, mais je trouve que c'est très très bien ce que vous dites, parce que nous on dit autrement, on dit qu'il n'y a pas de spécialiste pour décider ensemble de la vie qu'on veut construire. Vous voyez, ça ressemble un petit peu. Et c'est pour ça que dans Startup, on a tous notre photo et notre nom. Et après, c'est ce qu'on a dans les tripes qui vient. Et les tripes, ce n'est pas un niveau d'études ou un niveau de compétences. Donc je pense que c'est un vrai enjeu de permettre à chacun de nous, à un moment donné, de mettre sur la table ce qu'il a de meilleur par son expérience de vie sur un territoire. Voilà, je ne saurais pas le dire comme vous l'avez dit, mais ça me vient.
Oui. Moi, votre expérience me fait étrangement penser à quelque chose qui se passe pas loin de chez vous, à Saillan.
Ah oui, bien sûr.
Et est-ce que c'est un esprit du plateau du Vercors qui vous amène à ça? Enfin voilà, c'est quand même...
Que se passe-t-il à Saillan?
Alors Saillan, c'est une petite commune de 1300 habitants à peu près, dans la Drôme, qui, à partir d'un événement déclencheur qui a été la construction d'un supermarché, je crois à l'époque en 2010, a mobilisé en fait tous ses habitants contre ce projet, contre l'opacité, on va dire, des choix politiques qui étaient menés dans la commune. Et en fait, c'est un collectif d'habitants qui s'est mobilisé, qui s'est présenté au municipal, qui gère aujourd'hui la commune et qui la gère en co-gestion, en collectif, avec une gouvernance extrêmement ouverte et qui fait pâlir d'envie beaucoup de communes sur la manière d'associer les habitants et d'être très ouvert, d'être sans jugement, que chacun apporte sa compétence, aussi petite soit-elle, à la chose publique. Et voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Et je me dis quand même, culturellement, il y a peut-être quelque chose aussi dans les territoires qui fait que ça peut marcher. Il y a un événement déclencheur à un moment donné, il y a un engagement politique, au sens noble du terme, et puis il y a on relève les manches et on y va tous, et chacun a de la valeur à apporter à ce projet collectif.
Enfin, forcément, nous on est très fiers que Saillan ça soit dans la Drôme, parce que c'est une belle expérience. Nous on a un parrain à Archer qui est quelqu'un d'hyper important pour nous, qui s'appelle Claude Alfandéry. Il habite quai Voltaire, pas très loin. Et Claude, il a 94 ans. De parenthèse, la dernière fois, on est allé en réunion à Paris, il m'a conduit en voiture. Et Claude, il était chef de la résistance en Drôme. Et il dit plein de choses. D'abord, quand on a lancé la chaussure, il nous a beaucoup aidés, parce que c'est lui qui a lancé notre marque en disant, en 44, j'étais chef de la résistance dans la Drôme, et j'allais à Romans prendre des chaussures pour la résistance, et il dit, là maintenant je reviens à Romans, toujours pour des histoires de chaussures, toujours pour des histoires de résistance, mais de résistance économique, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui ont ces aspects-là. Moi je suis très content de ce qui se passe à Saillan. Et puis je découvre qu'il y a de plus en plus de lieux, d'expériences, de gens qui décident de faire autrement parce que ça ne peut plus aller comme ça. Je pense qu'on a besoin d'une forme de renouvellement des questions de vie démocratique, et que ça passe beaucoup plus par notre prise de responsabilité individuelle que par le fait qu'on n'est juste pas content des élus pour lesquels on vote. Et à Saillan, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce que ce que vous avez, vous l'avez dit, je crois, mais peut-être je vais insister là-dessus. Du coup, ils disent que c'est le village qui est élu. Parce que les élus, comme la loi, elle dit qu'il n'y en a qu'un certain nombre, et qu'eux, ils voulaient tous gérer. Les élus, ce n'est pas des élus à titre personnel, ils représentent des dizaines de personnes, etc. Donc les élus, avant de se positionner, c'est un sacré bordel des fois, hein, mais avant de se positionner, ils consultent, etc.
Est-ce qu'il y a beaucoup de... Souvent, dans les territoires, c'est aussi parfois des gens qui viennent de l'extérieur, qui est le territoire assez. Est-ce que dans ton affaire, il y a beaucoup de noms romanais ou de... c'est vraiment la culture locale.
Je pense que sur la partie ardéchoise, qui est une petite sœur ou une grande sœur, enfin, qui est à côté, les expériences innovantes viennent globalement des gens, pas des gens qui ont fait les 68 et qui sont arrivés, mais de leurs enfants. Donc c'est plutôt des gens qui n'étaient pas là au départ. Ardelaine, des expériences comme ça. Alors là, pour le coup, c'était déjà les Daras. Eux, ils venaient, ils ont aujourd'hui 70 ans, donc ils étaient de cette première génération. À Romans, on est plutôt sur une construction romano-romanaise et avec une identité culturelle très forte, avec le rejet de la ville à côté qui est Valence, parce que c'est la ville-préfecture, forcément bourgeoise, alors que nous, on est révolutionnaires, on raconte des histoires là-dessus, enfin, etc. Donc je pense que c'est à partir de... À Romans, il y a eu beaucoup de coopératives de production, il y a eu des mutuelles santé, il y a le siège régional de la Massif, il y a le crédit mutuel de toute une région qui avait son siège là. Donc il y a une vraie expérience à Romans. Nous, on pense à Archer que, sans tout le temps en avoir pleinement conscience, on est un peu les héritiers de cette histoire du territoire.
Je voudrais intervenir en tant que Valentinois.
Valentinois aussi.
Je poserai une question.
Vous êtes quand même d'accord sur l'image au départ.
Juste deux, trois petits points. D'abord, Romans-sur-Isère est bien dans la Drôme, mais c'est plutôt le Dauphiné. Par rapport à Saillant. Alors moi, je suis du fond de la Drôme, de Val Drôme, donc je connais bien Saillant, qui produit d'ailleurs une très bonne clairette de vie. Alors, première réflexion sur Chapoutier. Donc, il y a deux maisons, deux grandes maisons, Chapoutier et Grosatier. Et Chapoutier, moi, j'adore le vin, donc j'adore Chapoutier. Il y a quand même une chose, il me semble, c'est qu'aujourd'hui, Chapoutier est la propriété d'un grand groupe international. Donc, je ne suis pas étonné qu'il casse les bouteilles à Dijon pour en refaire de nouvelles. Et puis, surtout, je crains que... Un jour, la marque Chapoutier soit dans un paradis fiscal et que les producteurs d'Hermitage doivent payer les royalties comme Charles Mordant. La question, je voulais... Alors, Saillant, moi, je trouve que c'est un peu mode qu'on en parle dans le monde magazine, c'est ça. Il y a une émission sur France Culture, donc c'est très, très tendance. Ceci étant, je ne suis pas persuadé que ça sera le modèle... Des années à venir, même si je suis très fier de ça. Ma question, c'est sur Fougères. Je travaille à Rennes actuellement et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre Romans et Fougères. Parce que Fougères a souffert, en fait, du refus qu'à l'époque de Napoléon III, que le train passe à Fougères. C'est Vitré qui a eu le train, qui a aujourd'hui l'autoroute et demain la ligne à grande vitesse en Bretagne et tout ça parce que le patronat voulait garder ses ouvriers dans le coin et éviter qu'ils aillent travailler à Paris. Donc il y a eu vraiment une souffrance dans ce dernier demi-siècle, 1950 à 2000. Et je me demande si vous avez travaillé, comme si vous avez travaillé avec Figeac, si vous avez travaillé avec Fougères, mais moi l'expérience que je retiens, c'est que il faut, pour le maire de Fougères que je connais, et c'est pour ça que je pense que l'engagement des politiques locaux est fondamental, il faut aller chercher vraiment l'emploi avec les dents. C'est extrêmement dur. Et en même temps, il y a dans le bassin de Fougères plein de petites entreprises qui sont un peu sur le modèle que vous décrivez pour Romans.
Peut-être vous dire que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a 10-15 ans, pour la faire courte, quand un élu voulait vendre sa région, il bétonnait, il mettait des affiches 3 mètres sur 4 et il disait aux entreprises qu'ils savaient construire des usines pas chères, avec des voies d'accès à l'autoroute, etc. J'avoue qu'avec le métier que tu fais, Pierre, c'est un peu brutal comme je le dis, mais... moi, il me semble qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, se posent la question de tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, de la manière dont elles s'organisent ensemble, de la manière dont elles peuvent accueillir leurs salariés. On a créé, parce que je ne vous ai pas dit, mais en réalité, pour nous, aujourd'hui, le bassin de Romans et de Valence, ça va faire plus qu'un. Il faut juste un peu de temps. Et nous, on est en train de s'installer de plus en plus à Valence, justement pour travailler à l'échelle de cette nouvelle agglomération. On a créé une association de chefs d'entreprise à Valence, il n'en existait pas tellement. Et eux, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est un livret d'accueil des salariés, des cadres qu'ils essayent de recruter dans les grandes villes, en expliquant les attraits de la ville, la capacité de s'organiser, de profiter du bien-vivre, les aspects culturels, les gardes d'enfants, etc. Et donc, tout ça pour dire que je pense qu'avant, les collectivités locales pariaient sur la venue d'un Toyota qui venait créer 3000 emplois, et qu'aujourd'hui, la question du développement endogène à partir des forces du territoire, elle est de plus en plus posée. Et à Valence, à l'agglomération, les responsables de l'économie, les élus disent « Nous, si Toyota vient, on l'acceptera avec plaisir, mais on ne va pas attendre qu'ils viennent et on va voir comment, avec les entreprises présentes, on peut en développer d'autres, on peut les faire grandir, etc. » Il me semble que c'est une bonne solution.
Dernière question.
Oui. Une réflexion par rapport à la thématique et puis ce qu'on a exposé ce matin sur l'hyperconcentration finalement sur des pôles d'emploi comme Paris, Lyon par exemple. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une taille intermédiaire entre ce que vous êtes en train de développer, c'est sans...
ce que vous êtes en train de développer, je dirais que je qualifierais plutôt au niveau local, et cette hyperconcentration, est-ce qu'on peut trouver, vous citiez à l'instant le fait que vous alliez regrouper, enfin que le sujet de Valence était important, mais est-ce que vous pensez que ça peut marcher ou ça peut évoluer à partir du moment où vous avez après vous allez rentrer peut-être en compétitivité avec des territoires beaucoup plus vastes et qui seront beaucoup plus attractifs en termes d'emploi. Ma question, c'est plus sur la taille critique intermédiaire. Est-ce qu'il faut aller vers une taille plus grande pour pouvoir survivre, ou est-ce que finalement c'est pas le local et l'hyper local pour faire le parallèle avec l'hyperconcentration, est-ce que c'est pas ça qui est plutôt facteur de développement en restant à cette taille-là?
Oui, du coup, deux, trois choses. Les questions d'attractivité, nous, elles sont plus posées dans la capacité des acteurs à se connaître, à travailler ensemble, que de montrer ses muscles, etc. Après, sur les questions de taille critique, on voit bien ce que c'est les tailles critiques, par exemple, parce que nous, notre volonté, c'est de créer des alternatives importantes à la consommation au quotidien. C'est-à-dire qu'on veut que dans plein de territoires, on n'aille plus chercher la nourriture à 3000 km, qu'on n'aille plus prendre des jeans ou des chaussures hyper loin. Et du coup, à Valence, on a construit, on a mis en place un magasin il y a 5-6 ans qui vend des produits de mode, des fringues, des maquillages, des chaussures, bien entendu. Et ça marche super bien. Et aujourd'hui, pour nous, il y a une vraie question de taille critique, parce que, par exemple, encore une fois, on a lancé là une marque qui s'appelle Génération Sens, et c'est pas sur un magasin qu'on a la taille critique de lancer une marque. Et pour nous, du coup, l'enjeu, c'est pas de faire grossir Valence Romans pour que ça devienne un nouveau Paris. En plus, vraiment pas. Mais c'est de faire en sorte qu'il y ait à la fois des coopérations très fortes dans nos territoires et des coopérations inter-territoires. L'enjeu pour nous, c'est pas que je m'entende juste bien avec le directeur des fermes de Figeac, c'est que nos territoires coopèrent. Et là, on l'a bien compris parce qu'ils sont venus à 12, des agriculteurs, des élus, des gens comme ça, travailler à Romans. Et nous, on a fait pareil. Et nous, on pense que demain, c'est à partir de territoires extrêmement dynamiques, innovants, qu'on va construire des tailles critiques pour créer de vraies alternatives. Et en plus, on le fera avec des copains qui sont en Afrique, on le fera avec des gens, on va faire du commerce équitable à l'intérieur, et puis après, on ira en faire à l'extérieur. Donc voilà, moi, je pense que, si on parle de taille, je pense qu'on va plus y arriver en décidant de travailler avec des gens qui ont de l'autonomie et qui peuvent décider des choix de relations économiques qu'ils peuvent avoir avec d'autres territoires. Moi, je crois que de plus en plus, on va être maillé entre territoires. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Ouais. Ben, comme c'est moi qui ai parlé de l'hyperpolarisation ce matin, c'est une belle occasion de redire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a un mouvement statistique quand même fort aujourd'hui de concentration sur les pôles pour un certain type d'activité, bon ça je pense que c'est comme ça, c'est pas pour autant que les autres territoires sont condamnés, où il n'y a pas de trajectoire de développement, ça c'est un bel exemple. Et moi sur la question de la taille critique, je crois qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Il y a de la place pour des agglomérations de cette taille-là, il y a de la place pour des toutes petites agglomérations, simplement, tu l'as parfaitement dit, c'est le réseau aujourd'hui qui va faire la valeur, quoi. C'est-à-dire que chacun tout seul n'y arrive pas. Le réseau interne, hein, un des grands slogans, c'est de dire le problème des PME, des TPE, c'est jamais la taille, c'est la solitude. C'est quand elles sont seules qu'il y a un problème. Dès qu'il y a un écosystème vivant, de relations, etc., le mot écosystème, on l'a trop associé à la techno. Hein. Avec des pôles de compétitivité, on pense que c'est... Non, c'est plus général que ça, dès qu'il y a un tissu de coopération, les gens sont capables de s'entraider à l'intérieur d'un territoire, entre territoires, ça marche. Et c'est vrai à toutes les échelles. Je pense qu'il n'y a pas une seule voie de développement pour un pays comme la France. Et on a des atouts formidables quand même, parce que, bon, c'est vrai que tu disais, on est dans un... La situation est inquiétante par bien des égards, mais on a quand même des atouts absolument formidables, c'est d'avoir un pays malgré tout très compact, avec des bonnes infrastructures partout, avec des capacités de se connecter, de travailler ensemble, avec quand même un fond culturel extrêmement, extrêmement fort, ça c'est très important, qu'on ne va pas trouver dans un certain nombre de pays où alors là la divergence entre les pôles qui marchent et puis le reste du pays peut être dramatique, quoi, mais on n'en est pas là.
Non, je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser qu'on essaye de faire reconnaître par l'administration fiscale un crédit impôt recherche, innovation sociale. Parce que dès que vous avez fabriqué une godasse avec un talent un peu différent, ils vous le donnent, innovation technologique. Mais nous, on crée plus d'emplois dans la capacité à se mettre ensemble en mouvement. Et c'est plus un truc symbolique qu'un enjeu financier. On veut qu'on reconnaisse ces formes d'innovation sociale comme étant des formes d'innovation que l'État peut financer à partir de la fiscalité, comme on le fait quand on trouve une lampe qui s'éteint au bout de moins longtemps. Enfin, ouais.
Bon, voilà, merci, ce sera le prochain.